porte, éteignez les lumières, allumez une bougie, sortez votre plaid et installez-vous confortablement. Bienvenue dans Un autre regard, l'émission de Radio G qui vous plonge au cœur du paranormal et de l'ésotérisme. Bref, tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Ce soir, dans un autre regard, nous vous invitons à franchir les frontières du visible et à écouter ce que le monde parfois tente de nous murmurer. D'abord, nous nous arrêterons devant ces statues qui pleurent, icônes sacrées ou silhouettes oubliées qui depuis des décennies défient la science et bouleversent les croyants. Larmes d'eau, de sang, parfois même de parfum, simples phénomènes physiques ou messages venus d'ailleurs. Nous plongerons au cœur des enquêtes, des analyses et des récits qui ont fasciné ces mystères. Puis, nous descendrons aux profondeurs du vivant pour écouter les bruits de la terre. Ces voix, ces sons fascinants, déroutants, parfois inquiétants, captés aux quatre coins du globe. Vibrations naturelles ou grondements inexplicables, la planète nous parle et nous allons tenter de comprendre son langage. Enfin, nous pousserons les portes des maisons qui refusent d'être habitées, ces lieux où rien ne semble vouloir rester en place. Pannes étranges, atmosphères lourdes, incidents répétés. Jusqu'où un lieu peut-il influencer ceux qui y vivent? Et pourquoi certains bâtiments semblent-ils rejeter leurs occupants? Trois mystères, trois façons d'interroger le réel et peut-être d'en révéler l'envers. Bienvenue dans un autre regard, imaginez une petite église de campagne, silencieuse, presque oubliée du temps. Quelques bougies tremblotent devant une statue de la Vierge au regard doux. Leurs flammes projettent des ombres vacillantes sur les murs humides. Une femme entre, s'agenouille, prie, et soudain elle s'interrompt. Sur les joues de la statue, une larme roule, une vraie larme, brillante, qui glisse lentement jusqu'au bord du voile. Elle croit d'abord à une illusion, à la lumière qui joue sur le plâtre. Mais non, d'autres la voient, s'approchent, murmurent, s'émeuvent, et très vite, la rumeur enfle. On parle parfois de miracles, de signes divins, de la Vierge qui pleure la douleur des hommes. Des scènes comme celle-ci, il s'en produit des dizaines à travers le monde, en Italie, au Japon, en Argentine, aux États-Unis, parfois même en France. Des statues religieuses, souvent des vierges, qui se mettent à pleurer, à verser des larmes d'eau, de sang, d'huile parfumée ou de liquide impossible à identifier. Phénomène mystique, canular habile, manifestation collective d'émotions, entre foi et science, ferveur et scepticisme, ces larmes interrogent, car elles semblent franchir une frontière. Celle qui sépare la matière inerte du vivant. Le visible de l'invisible. Aujourd'hui, dans un autre regard, nous allons explorer ce mystère troublant, celui des statues qui pleurent. Celles qui défient la raison, bouleversent la foi et parfois transforment à jamais la vie de ceux qui en ont été témoins. Un des premiers cas modernes qu'on peut citer, c'est Syracuse en 1953, c'est un peu le cas fondateur. Alors nous sommes en Italie, dans la Sicile d'après-guerre, Syracuse, port animé mais encore marqué par la pauvreté et les cicatrices du conflit, voit naître un événement qui va bouleverser la foi de ses habitants. Dans un quartier populaire, Antonina Giusto, jeune mariée d'à peine 20 ans, reçoit de sa famille une statuette de la Vierge pour son mariage. Un geste symbolique chargé de bénédiction et de protection. Quelques semaines plus tard, un soir, Antonina remarque un phénomène étrange. De fines gouttes apparaissent sur les yeux de la statuette. Alors au début, elle pense à de la condensation ou à un accident, mais en observant attentivement, elle comprend qu'il s'agit de véritables larmes. Donc elle partage son étonnement avec sa famille qui finit par prévenir les voisins. Rapidement, des dizaines de personnes viennent constater le même phénomène. Le bruit se répand et attire l'attention du clergé local. Le curé du quartier, intrigué mais prudent, invite des prêtres de Syracuse à examiner cette fameuse statuette. Des journalistes, curieux de cette histoire insolite, commencent également à se déplacer. Même des médecins sont consultés. Des analyses sont réalisées sur le liquide. Un résultat scientifique, 98% d'eau, avec des traces minimes de sels humains. Une composition qui ne permet pas de trancher, en fait, entre un phénomène naturel et un miracle. L'Église mène une enquête approfondie et après plusieurs mois de témoignages, de vérifications, de recoupements, elle finit par authentifier le phénomène comme un miracle, faisant de Syracuse le cas fondateur des statues pleurant de la Vierge dans le monde moderne. Je ne pouvais pas croire mes yeux, la statue semblait vivre, ses larmes glissaient doucement, comme si elle partageait notre douleur, racontait un voisin. Alors dans les années 70 à 90, on a une vraie multiplication des cas. Alors à partir des années 70, le phénomène prend une dimension internationale. Des statues qui pleurent apparaissent dans le monde entier, souvent à des périodes de tensions sociales ou religieuses. Alors on peut citer le cas d'Akita au Japon en 1973. Une religieuse, sœur Agnès Katsuko, observe la statue de la Vierge pleurer à plusieurs reprises, 101 fois, devant des centaines de témoins. Certains voient ces larmes un signe d'avertissement face à la montée de l'athéisme et à la perte des valeurs spirituelles. Les pèlerins, en tout cas, affluent du Japon tout entier et même des journaux internationaux relaient l'histoire. Dans les années 70, des statues dans l'état de Kerala en Inde pleurent, parfois accompagnées d'odeurs de parfums floraux inexpliqués. Les habitants interprètent ces manifestations comme des messages divins, appelant à la prière et à la paix. Et dans les années 80, c'est en Argentine, dans un petit village, rapportent des statues pleurant, juste après des périodes de crise politique et sociale. Les témoins racontent que leurs larmes coïncident avec des événements douloureux comme la perte d'êtres chers ou des catastrophes locales. Et que ce soit aux États-Unis ou en France, de nombreux cas sont documentés, souvent accompagnés de rassemblements de fidèles. Les médias jouent un rôle central dans cette diffusion. Certains sceptiques y voient des effets psychosomatiques collectifs, tandis que d'autres considèrent ces événements comme authentiques et miraculeux. Alors ces manifestations, en tout cas, semblent réagir aux épreuves humaines, guerres, crises économiques, tensions sociales. On pourrait dire que ces statues pleuraient avec le monde, comme si elles partageaient la douleur et les épreuves de l'humanité. Alors comme si, chaque fois que le monde pleurait, les statues pleuraient avec lui. Ça, c'est ce que confie un prêtre italien à un journaliste dans les années 70. Derrière la fascination et l'émotion, des questions quand même se posent. Qu'est-ce qui pousse des objets inanimés à manifester ce qui ressemble à des émotions humaines? Plusieurs hypothèses ont été avancées à travers le temps. Première hypothèse, c'est psychosomatique. Avec un effet de masse, la croyance collective pourrait influencer la perception des témoins qui crée un genre d'effet de miroir émotionnel. Et autre explication? Alors, en explication plus physique ou chimique, il y aurait bien sûr, on a parlé tout à l'heure, de condensation d'huile corporelle ou de traces d'humidité dans les matériaux qui sortiraient du coup par capillarité. En tout cas, pour l'Église, il s'agit d'un miracle authentique lorsque le phénomène résiste à toutes les analyses scientifiques et que des signes spirituels accompagnent les manifestations. Il peut donc, selon l'Église, être considéré comme un signe divin. Le cas de Syracuse reste le modèle étudié, mais ces événements des années 70 à 90 montrent en tout cas que le phénomène il est global, répétitif et souvent relié aux crises humaines, ce qui alimente à la fois, bien sûr, la curiosité scientifique et la fascination médiatique. Alors après avoir traversé Syracuse, Akita et tous ces lieux où les statues semblent verser des larmes pour le monde, une question quand même s'impose, qu'est-ce qui se cache réellement derrière ces phénomènes ? S'agit-il d'un miracle authentique, comme l'Église le confirme parfois, ou d'un phénomène psychosomatique, influencé par la foi, l'émotion collective et l'attente des témoins? Alors, les scientifiques, eux, observent, mesurent, analysent, mais souvent le mystère persiste. De simples gouttes d'eau viennent alors un objet d'étude, oscillant entre science et croyance, rationnelle et surnaturelle. Alors nous allons plonger dans ces enquêtes, les analyses médicales, chimiques et psychologiques, des tentatives de reproduction du phénomène et des témoignages de sceptiques qui cherchent encore une explication rationnelle. Mais nous découvrirons, j'ai bien peur, que comme parfois, que la science et la foi se confrontent sans jamais totalement s'exclure. Alors derrière l'émotion et la ferveur de ces phénomènes, ce phénomène de statue pleurant de la Vierge a très tôt fait susciter la curiosité des scientifiques. Dans les années 50, à Syracuse et plus tard à Akita ou en Argentine, des médecins, des chimistes, des biologistes se sont penchés sur le liquide. Ils cherchaient en tout cas à comprendre sa composition. En la majorité des larmes se révèlent être constituées essentiellement d'eau, avec de faibles concentrations de sels minéraux et de protéines. Mais certains cas ont surpris par la présence de traces biologiques identifiables, parfois même avec un ADN masculin. Un détail troublant lorsque la statue est inanimée et qu'aucun homme n'était proche. Alors on sait que certaines statues sont fabriquées dans des matériaux qui sont poreux, comme le plâtre, la pierre et le bois, qui sont capables de retenir l'humidité ambiante. Et les fissures microscopiques peuvent alors laisser suinter des gouttes, surtout dans des lieux humides et mal ventilés, comme des églises. Et dans certains cas, des changements de température ou des variations d'atmosphérique coïncident avec l'apparition des larmes. Ça aurait donc été un phénomène physique qui a encore été peu étudié. Et puis malheureusement, certains cas documentés ont révélé des dispositifs cachés, comme des petites seringues, des tubes fins ou des mécanismes qui produisent artificiellement des larmes. Ces cas montrent que le phénomène peut donc être manipulé, mais qu'il ne s'agit pas, ce qui ne veut pas dire que c'est le cas de tout, hein. Mais il pourrait effectivement avoir un certain pourcentage de fraude ou de manipulation. Alors on sait que la science seule ne peut pas tout expliquer. La psychologie et la sociologie religieuse apportent des clés précieuses pour comprendre pourquoi tant de témoins perçoivent ces larmes comme miraculeuses. Alors déjà, il y a un phénomène qu'on appelle la contagion émotionnelle, c'est-à-dire que lorsqu'un individu voit une larme, sa réaction, émerveillement, émotion, influence inconsciemment les autres observateurs. Le phénomène se répand alors, même si certaines larmes sont dues à des causes totalement naturelles ou physiques. L'effet d'attente religieuse. C'est-à-dire la croyance joue un rôle central ici. Dans des communautés qui sont très pieuses, les fidèles sont conditionnés à percevoir des signes. Une statue devient alors un support tangible de la foi et des études montrent que dans un monde de plus en plus désacralisé, le besoin de signes visibles et concrets est particulièrement fort. On sait aussi que ces phénomènes apparaissent souvent en période de troubles sociaux, économiques ou politiques. Donc les larmes de la Vierge coïncident avec des périodes de doute et de peur collective. Elles servent un peu en fait comme un repère émotionnel et spirituel. Quelle est la position de l'Église par rapport à ça? Alors face à ces phénomènes, l'Église adapte une position qui est rigoureusement prudente. Sur des centaines de cas recensés dans le monde, seuls quelques-uns sont officiellement reconnus comme authentiquement surnaturels. Déjà, il y a des critères d'authentification. L'Église examine attentivement les témoignages, vérifie la cohérence scientifique et historique et observe aussi la persistance du phénomène dans le temps. La reconnaissance n'est jamais automatique. Elle repose donc sur la convergence de plusieurs éléments qui sont aussi bien rationnels que spirituels. La citation emblématique dans ce cas, c'est que l'Église ne crie pas le miracle, elle l'accueille quand il s'impose à la raison et à la foi. Pour l'exemple d'Akita, c'est en 1984 que Rome reconnaît officiellement le caractère surnaturel de ces larmes après une enquête approfondie. Les témoignages des religieuses, les analyses scientifiques et les observations continues des larmes ont convaincu l'Église que le phénomène ne pouvait pas être réduit à une simple fraude ou à une simple illusion collective. Alors cette présence souligne quand même la double posture de l'Église. Elle est ouverte à la dimension spirituelle mais quand même soucieuse de ne pas valider un miracle sans preuve tangible et concordante. Donc les statues qui pleurent deviennent ainsi un point de rencontre entre la foi et la science, un espace où le rationnel et le surnaturel peuvent coexister, parfois en tension, parfois en harmonie. Alors après avoir exploré les premières apparitions, les enquêtes scientifiques et les réflexions des psychologues, une question quand même demeure, est-ce que ces statues pleurent-elles vraiment encore aujourd'hui? Alors le phénomène est quand même loin de se limiter au passé et continue de fasciner et d'émouvoir dans le monde moderne où les médias, les réseaux sociaux et la communication instantanée amplifient chaque événement. De nouvelles manifestations attirent l'attention des croyants, des sceptiques et parfois même des scientifiques. Dans tous les cas, ces phénomènes nous rappellent que le miracle n'est pas seulement ce que l'on voit, mais aussi ce que l'on ressent et ce que l'on cherche à comprendre. Ils incarnent un espace où la foi, l'émotion et la curiosité scientifique se rencontrent, parfois en tension, parfois en harmonie. Pour nous, chers auditeurs, la question reste ouverte. Quand une statue pleure, est-ce un signe, un message ou simplement une coïncidence amplifiée par la croyance? Chacun peut y voir ce qu'il souhaite, mais l'expérience en tout cas laisse une empreinte indélébile, un mélange de fascination, de doute et de recueillement. Sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Alors après ce petit titre de Ghost, nous sommes toujours sur Radio G Angers, vous êtes dans l'émission Un autre regard. Nous avons explorer dans la première partie les statues qui pleurent. Alors après avoir exploré ce phénomène étrange et les témoignages qui nous ont laissé plutôt songeurs, il est temps de nous tourner notre regard et surtout notre écoute vers une autre forme de mystère, celle que nous offre la nature elle-même. Car la Terre parfois semble vouloir nous parler et le fait à travers des sons si étranges, si surprenants qu'ils défient toute explication simple. Alors dans cette seconde partie, nous allons plonger au cœur des voix de la Terre, de ses sons, ses murmures, ses grondements, tous ces chants mystérieux qui semblent surgir du sol, de l'eau ou parfois du vent et tenter de comprendre ce qu'ils peuvent nous révéler. Alors la nature ne cesse bien sûr de nous fasciner, elle fascine l'homme depuis des millénaires, elle ne limite pas à ses paysages majestueux, à sa faune et à sa flore foisonnante, elle possède également une dimension sonore unique, souvent insaisissable et parfois profondément marquante. Ces sons mystérieux, parfois à peine perceptibles, parfois inquiétants, sautent autant de voix qui semblent émaner de la Terre elle-même, comme si notre planète cherchait à communiquer avec nous. Des forêts profondes où le vent s'infiltre dans les branches, jusqu'aux montagnes désertiques où le silence est ponctué de murmures étranges, la Terre semble capable de produire un langage à la fois ancien et universel. Alors depuis les temps les plus reculés, l'homme a été intrigué par ses manifestations acoustiques. Des peuples anciens associaient certains sons naturels à des présages, des esprits ou des divinités. Les rivières qui grondent, les échos mystérieux dans les canyons, les craquements des glaciers ou encore des bourdonnements sourds des volcans ont tous inspiré des mythes, des légendes et des croyances. Les scientifiques, eux, ont longtemps cherché à comprendre ces phénomènes, tentant de séparer le réel de l'imaginaire, l'explicable du mystérieux. Alors dans ce domaine, les sons dits paranormaux ou étranges ont souvent captivé l'attention des chercheurs et des explorateurs. Des bruits inexpliqués dans des zones reculées, des vibrations sourdes ressenties plutôt qu'entendues, des chants semblant provenir de nulle part. Tout cela constitue ce qu'on pourrait appeler les voix de la Terre. Alors ces sons ne se limitent pas aux sons perceptibles à l'oreille humaine, les ondes infrasonores par exemple, produites par certains phénomènes géologiques ou météorologiques, peuvent provoquer des sensations physiques, malaise ou impression d'angoisse chez ceux qui les perçoivent. Des enregistrements modernes réalisés à l'aide de capteurs sophistiqués révèlent que la Terre est constamment animée par un concert inaudible, oscillant entre murmures et grondements, capable de raconter l'histoire de ses forces internes et de ses transformations. Elles ont nourri l'imaginaire humain, donné naissance à des récits où la nature elle-même devient un personnage à part entière. Mais ils posent également des questions scientifiques et philosophiques. Que disent ces sons? Sont-ils simplement le fruit d'un processus naturel complexe ou recèlent-ils un message plus profond? Une façon pour la Terre de se faire entendre. Dans cette exploration, on va plonger au cœur de ces voies. Nous tenterons de comprendre les mécanismes, l'origine, de découvrir les endroits où ils se manifestent de plus en plus intensément. Alors, premier son remarquable, ce qu'on appelle le bloop. Alors, c'est l'un des exemples les plus célèbres de ces voies, c'est le bloop. Alors, c'est un son qui est sous-marin, ultra puissant, qui a été enregistré en 1997 par des hydrophones de la National Oceanic and Atmospheric Administration, donc le NOAA, dans le Pacifique. Il a été détecté par plusieurs milliers de kilomètres des capteurs. Il est d'une fréquence qui est ultra basse et d'une amplitude qui est absolument exceptionnelle. Alors, au début, il y a des spéculations qui ont évoqué une créature marine inconnue. Puis l'hypothèse qui est retenue par le fameux NOAA, c'est celle d'un cryoséisme et d'un phénomène de glace, donc ce qu'on appelle un icequake, donc la fracture d'un énorme iceberg ou la cassure d'un glacier. Alors, ces cas montrent que c'est des phénomènes naturels géologiques ou cryosphériques, là, peuvent produire des sons d'une puissance qui est absolument exceptionnelle, mais qui reste néanmoins difficilement localisable et interprétable. Alors, autre son, après le bloop, vous avez le Taos Hum, hein, ce qu'on appelle les hums analogues. Alors, c'est un autre phénomène clairement qui est, lui, plus terrestre, plus souterrain, et ce qu'on en appelle the hum. C'est plus précisément the Taos Hum, c'est un bourdonnement ou un grondement qui est basse fréquence qui est rapporté depuis les années 90 à Taos, au Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Alors, une étude de 162 témoins, on va dire, d'auditeurs, a montré que ce phénomène affecte environ 2% de la population locale dans certaines zones. Alors, les fréquences associées à sont très basses, on est entre 30 et 80 Hz selon les personnes, et les sensations peuvent être variables. L'étude conclut que pour une majorité de ces entendants, il pourrait s'agir d'une variante d'un acouphène basse fréquence plutôt qu'effectivement d'un son externe. Alors, ce phénomène, il reste quand même particulièrement inexpliqué. Certains voient un effet environnemental, d'autres voient une source interne, hein, auditif ou géophysique. Il illustre bien, en tout cas, la frontière entre un phénomène sonore naturel et le perceptif de la personne. On a également le hum planétaire, ce qu'on appelle, qui est dû aux oscillations de la Terre. Donc, au-delà de ces sons qui sont très localisés, les scientifiques ont découvert que la Terre émet un bourdonnement permanent, qu'on appelle parfois Earth's Hum. Alors, il est détecté non pas par l'oreille humaine, mais par des sismomètres. Hein. Alors, c'est des oscillations à basse fréquence qui traversent le globe, même en l'absence de séances perceptibles. L'hypothèse retenue, c'est que les ondes océaniques, qui interagissent sur les plaques continentales, génèrent des micro-mouvements continus dans la croûte terrestre. Alors, ce type de phénomène montre combien la planète est vivante, et que d'un point de vue géophysique, elle émet en permanence des signaux que notre oreille ne capte pas directement. Plusieurs mécanismes scientifiques en fait permettent de donner un cadre à ces phénomènes. On a tout ce qui est ondes infrasonores, donc les ondes de fréquence très basse qui sont inférieures à 20 Hz peuvent se propager sur des très grandes distances sans être atténuées comme les sons audibles. Elles sont émises par des phénomènes tels que les volcans, les tremblements de terre, les avalanches ou les conditions atmosphériques. On sait également que même en l'absence de séismes majeurs, il y a quand même des micro-mouvements de la croûte terrestre qui peuvent produire des vibrations, qu'on va percevoir en fait comme des grondements ou des bourdonnements. Hein, c'est là qu'on vient le terme de subterranean rumbling, qui illustre du coup ce phénomène. Phénomènes qui sont liés à la glace, à la fracture d'iceberg ou à la rupture du coup de structures cryosphériques qui peuvent générer des sons. Donc là, c'est tout ce qui est glace, glacier. Alors, ce qu'on peut retenir de toute façon pour cette émission, c'est que du point de vue scientifique, ces voies de la Terre sont des manifestations naturelles, certes impressionnantes, parfois mal comprises, mais en tout cas bien fondées. Elles nous rappellent que la Terre est un système dynamique, toujours en mouvement. Alors, toutefois, avec la science la plus rigoureuse, certains phénomènes restent quand même partiellement inexpliqués. On ne connaît pas l'origine exacte, on ne connaît pas la localisation, et on a du mal à comprendre le système de propagation. Alors, c'est bien sûr ce qui ouvre la porte à l'étonnement. Alors, au-delà de la science, plusieurs traditions et approches alternatives voient pour ces sons mystérieux une dimension de message, de communication ou de réveil. Alors, certains cosmologistes considèrent la planète comme un être vivant qui est doté de cycles un petit peu respiratoires, de battements, d'impulsions énergétiques. Alors, dans ce cadre, les grondements terrestres ou les bourdonnements sont des voix de la Terre qu'elle adresse à l'humanité pour nous alerter, nous inviter à l'écoute et à la transformation. Alors, les phénomènes acoustiques qui sont rares ou inaudibles, comme les infrasons, peuvent être interprétés comme des signaux que seuls certains récepteurs peuvent entendre, des médiums, chamans, témoins sensibles. On a rejoint l'idée que la nature a des langages qu'il appartient à l'homme de réapprendre. Terre se parle à elle-même, la nature manifeste sa présence à travers le son. Alors même si la science couvre en grande partie ce phénomène, il reste essentiel de se rendre compte des vécus humains. Donc dans les zones qu'on disait tout à l'heure affectées par The Hum, hein, comme il y a à Taos, il y a une version à Windsor en Angleterre, des habitants rapportent des bourdonnements inaudibles pour d'autres, des effets de malaise, de fatigue, parfois des troubles du sommeil. Une étude de 2016 indique que dans 73% des cas, les personnes rencontrent au moins une caractéristique typique. Battement à phase avec un son extérieur, rotation de la tête modifiant le son, délai pour le bloop, les chercheurs de la fameuse NOAA, donc le National Oceanic and Atmospheric Administration, un organisme scientifique américain, du coup, ont expliqué que le son était si puissant qu'il a été détecté à plus de 4800 km de distance. Alors, qu'avons-nous entendu dans cette exploration des voies de la Terre, des grondements sourds dans le Nouveau-Mexique, des bourdonnements mystérieux qui sont à Windsor ou à Bristol, le célèbre bloop des profondeurs du Pacifique, des sons qui sont puissants et étranges, qui ont fasciné autant les scientifiques que les habitants. Alors la science, bien sûr, nous offre des explications solides, microséismes, écoulements magmatiques, les fameux ice quakes. Au-delà des hypothèses scientifiques, ces sons interviennent aussi à une écoute plus subtile, plus spirituelle. Et si la Terre, comme un être vivant, essayait de communiquer? Et si ces vibrations étaient des appels à notre attention, des messages pour nous qui ne savons pas encore les décoder? Ainsi, ces voix mystérieuses, ces sons, nous rappellent que notre planète est en perpétuel mouvement, en constance de vibration, et que nous en faisons partie de ce grand système vivant. À nous d'apprendre les codes, à l'écouter, non seulement avec nos oreilles, mais avec notre sensibilité, notre intuition et notre conscience. Car dans le silence, dans le grondement ou dans le bourdonnement, la Terre parle et il nous appartient de tendre l'oreille. Alors après avoir écouté les grondements et les murmures mystérieux de notre planète, il est fascinant de constater que la Terre elle-même peut manifester une présence, émettre des signes que nous peinons encore à comprendre. Dans la prochaine partie, nous allons explorer ces maisons qui semblent refuser d'être habitées, où les propriétaires se heurtent à des pannes inexplicables, des accidents répétitifs ou à une atmosphère oppressante. Nous découvrirons des exemples célèbres, des analyses géobiologiques et des interprétations plus ésotériques pour tenter de comprendre si certains lieux possèdent une conscience propre ou sont gardés par des genres de forces invisibles. Mais avant cela, je vous propose une petite pause musicale avec Lanterns on the Lake. My unwelcome guest who rattles round my head and stalks the car. I know what I saw. de retour sur Radio G Angers 101.5 FM et vous pouvez également nous écouter sur le www.radio-g.fr ou rattraper les émissions que vous avez manquées. Alors imaginez une maison où chaque objet semble avoir sa propre volonté. Les lumières s'éteignent sans raison, les portes claquent quand personne n'est là et une atmosphère oppressante vous fait hésiter à poser le pied dans chaque pièce. Chaque propriétaire qui s'y installe finit par partir rapidement, parfois précipitamment, sans jamais réellement expliquer pourquoi. Imaginez cette maison où le silence lui-même semble peser sur vos épaules, où chaque pas résonne différemment, comme si le lieu observait et jugeait vos moindres gestes. Les lumières vacillent sans raison, les portes se ferment derrière vous alors que vous venez d'y entrer. Et une tension diffuse s'installe dans l'air, presque palpable. Ce n'est pas seulement une impression, ni le fruit de votre imagination. Certaines maisons semblent posséder une volonté propre, une énergie invisible qui s'oppose à toute occupation. Dès que quelqu'un franchit le seuil, elles imposent leurs règles, elles perturbent le quotidien et parfois finissent par chasser leurs habitants. Dans ces lieux, tout ce qui est banal devient inquiétant. Chaque détail ordinaire prend une dimension étrange et la frontière entre le tangible et l'inexplicable se brouille. Aujourd'hui, nous allons explorer ces maisons singulières, comprendre pourquoi elles refusent d'être habitées et découvrir ce qui se cache derrière leur atmosphère oppressante entre faits documentés, analyses et interprétations ésotériques. Alors tout d'abord, nous allons aborder un cas célèbre qui rentre dans toutes les cases du tableau, la maison de Pontefract en Angleterre. Alors la maison de Pontefract, qui est surnommée la maison hantée de Pontefract, c'est sans doute l'un des exemples les plus documentés de ce phénomène. Dès les premières années d'occupation, ses habitants ont été confrontés à des événements inexplicables. Pannes et accidents répétés, c'est-à-dire que les appareils électriques tombent en panne les uns après les autres. Les portes et les fenêtres claquent sans cause apparente, certains objets disparaissent puis réapparaissent ailleurs dans la maison. On a une atmosphère pesante. Tous ceux qui ont vécu décrivent un sentiment constant d'être observé, un poids invisible sur la poitrine qui rend le sommeil difficile et aggrave l'anxiété. Famille après famille, les propriétaires finissent par quitter les lieux. Certains ont déclaré ne plus jamais vouloir entendre parler de cette maison, laissant derrière eux un lieu chargé d'énergies étranges. Or, les rapports documentés par des chercheurs locaux et des journalistes de l'époque montrent une constance troublante. Tous les occupants ont vécu des phénomènes similaires, malgré les époques et des conditions de vie totalement différentes. Alors, il n'y a pas qu'en Angleterre, c'est le cas également de la maison d'Amiens en France, c'est dans les années 1980. Donc là également, on avait des pannes électriques, des fuites d'eau qui apparaissaient systématiquement. Des bruits mystérieux se faisaient entendre la nuit, des pas dans les couloirs, des coups légers dans les murs, comme si la maison respirait et bougeait avec ses habitants. Les habitants ressentaient un malaise profond et durable, une angoisse qui s'installait progressivement et qui rendait le quotidien pesant. Or, ce type de maison illustre parfaitement la notion de rejet de lieu, où l'espace lui-même semble refuser la présence humaine. Alors souvent surnommée la maison la plus hantée d'Angleterre, la maison de Borley, donc Borley Rectory, qui était construite au 19e, dans le comté d'Essex, a connu en fait une succession de phénomènes troublants elle aussi. Ses occupants rapportaient des bruits inexpliqués, des portes qui claquent, des vitres qui se brisaient sans raison, et des objets qui se déplaçaient. Mais au-delà des incidents, on va dire, qui sont matériels, c'est surtout l'atmosphère qui était inquiétante. Un sentiment constant de présence, de surveillance, comme si la maison elle-même observait ses habitants. Les familles successives, incapables de s'y installer durablement, finissaient par partir, laissant la demeure vide, mais intensément habitée par son propre passé. Donc dans la même veine, on a la fameuse maison construite par Sarah Winchester, qui est un autre type, donc la maison de Winchester en Californie. Alors cette maison était connue pour son architecture labyrinthique, avec des escaliers qui mènent nulle part, des portes qui s'ouvrent sur des murs et des couloirs interminables. Alors selon les témoignages historiques, Sarah Winchester pensait que ces constructions complexes détourneraient les esprits qui la hantaient. Les visiteurs et les ouvriers qui s'y trouvaient rapportaient un malaise profond, des accidents étranges et une impression de désorientation constante. La maison, par sa structure et son histoire, semble refuser un usage normal qu'on imposerait à ce genre de demeure. Rendu célèbre par l'affaire d'Amityville dans les années 70, on est dans le comté de New York, cette maison, donc la maison d'Amityville, a été également le théâtre d'événements troublants pour ses habitants. On pense à les membres de la famille Lutz qui ont emménagé peu après un meurtre tragique survenu dans la demeure et qui ont décrit une série d'incidents inexpliqués, bruit de pas, odeurs inhabituelles, mouvements d'objets, variations de température. Bien que l'aspect médiatique ait popularisé l'affaire, les témoignages des habitants évoquent un sentiment persistant de rejet du lieu, une atmosphère pesante et oppressante qui a conduit la famille à quitter la maison au bout de quelques semaines seulement. Alors, tous ces exemples montrent bien à quel point certaines maisons semblent échapper au contrôle de leurs occupants. Mais derrière ces histoires d'angoisse, de ces portes qui claquent, de ces événements et de ces départs précipités, il existe des pistes plus tangibles, des éléments que la science et la géobiologie, en tout cas, tentent d'expliquer. Alors, comment certaines maisons peuvent-elles influencer le temps, le corps et l'esprit de ceux qui y vivent ? Pourquoi ces lieux se révèlent hostiles à l'installation humaine, au point que chaque famille finit par partir ? C'est ce que nous allons explorer maintenant, en examinant les caractéristiques physiques et énergétiques de ces maisons. Alors, certaines maisons qui semblent refuser d'être habitées possèdent des caractéristiques qui peuvent être observées et étudiées par la science. Alors, ces observations offrent, on va dire, un éclairage fascinant sur l'interaction entre le lieu et les habitants, sur des raisons pour lesquelles certains espaces nous paraissent impraticables ou hostiles. Or, parmi les pistes les plus étudiées se trouvent les failles telluriques, ces fractures naturelles du sol où les énergies de la Terre se croisent et se combinent. Alors dans les maisons qui sont situées, en tout cas sur ces failles, les champs électromagnétiques peuvent être perturbants et des ions positifs ou négatifs en excès peuvent se répandre dans l'atmosphère. Les personnes qui y vivent ressentent souvent une fatigue persistante, des migraines inexpliquées, une sensation de lourdeur ou d'oppression, comme si la maison elle-même exerçait une genre de pression invisible. Dans certains cas, ces anomalies peuvent même modifier la perception du son et de la lumière, renforçant l'impression que le lieu est vivant et qu'il rejette toute présence humaine. Alors, ces perturbations géobiologiques, bien que subtiles, constituent une explication partielle à la répétition d'incidents matériels ou à l'inconfort psychologique rapporté par les occupants. Alors, au-delà de ces idées de failles, la théorie dite de la mémoire des murs propose que les matériaux d'une maison, alors qu'il s'agisse de la pierre, du bois ou des briques, peuvent accumuler l'énergie des événements qui s'y sont déroulés. Les traumatismes, les accidents, les violences ou les tragédies marquantes laissées dans le passé pourraient laisser comme une empreinte subtile dans la structure même du bâtiment. Les nouveaux bâtiments, même sans connaître l'histoire exacte de la maison, peuvent ressentir ces énergies sous forme de malaise, des tensions physiques ou psychiques, des cauchemars récurrents ou d'une sensation constante d'être observé. C'est un petit peu comme quand lorsque vous rentrez dans une pièce où deux personnes viennent de se bagarrer ou viennent de s'engueuler, on sent effectivement l'atmosphère est chargée. On est capable de ressentir, on va dire, l'hostilité du lieu. Alors, dans la maison de Pontefract, par exemple, les analyses ont mis en évidence des anomalies électromagnétiques et des vibrations inhabituelles qui semblaient perceptibles uniquement par les habitants et qui correspondaient parfaitement à des épisodes de malaise rapportés. Alors, ces constatations montrent que les phénomènes vécus par les occupants ne révèlent pas uniquement de l'imaginaire, mais peuvent avoir des manifestations qui sont mesurables et objectives. D'autres études documentées viennent compléter ce constat. Dans la maison de Pontefract, il y a eu des relevés précis qui ont montré que les champs électromagnétiques avaient été systématiquement supérieurs à la normale lors des visites sur place. Et ces anomalies semblaient directement corrélées avec de l'inconfort et le stress ressenti par les habitants. À Amiens, c'est des variations brusques et inexpliquées de température et d'humidité qui accentuaient l'impression d'oppression et rendaient certaines pièces particulièrement difficiles à occuper. Alors même si ces observations ne permettent pas de comprendre entièrement les phénomènes, elles suggèrent que certaines maisons interagissent avec leur environnement de manière tangible et persistante et que ce lien invisible entre le lieu et ses occupants peut engendrer un rejet réel et répétitif. Il apparaît donc que certaines maisons possèdent des particularités physiques et énergétiques capables d'influencer profondément la vie de ceux qui tentent d'y habiter. Alors ce constat, il est à mi-chemin finalement entre la science et le mystère. Il montre que le rejet ressenti par les habitants n'est pas seulement subjectif, Il pourrait s'agir effectivement d'une interaction complète entre le lieu, ses caractéristiques géophysiques et l'histoire qu'il a traversée, et qui transformerait certaines maisons en lieux que l'on ne peut pas habiter durablement sans en subir les conséquences. Alors si finalement la science nous offre des pistes intéressantes, elle ne parvient pas à tout expliquer. Les relevés électromagnétiques, les anomalies de température, la mémoire des murs éclairent quand même certains aspects, mais ils ne rendent pas compte de certaines impressions étranges, presque conscientes, que certaines maisons semblent imposer à leurs habitants. Alors pour tenter de comprendre l'intensité du malaise, la persistance des incidents et la répétition des départs, il faut parfois se tourner vers des approches, on va dire, plus anciennes, issues de l'ésotérisme et de la tradition, qui envisagent ces lieux comme des entités à part entière, capables d'influencer le monde des vivants. Alors si la science fournit des pistes, l'ésotérisme propose une lecture donc différente, qui plonge au cœur de l'invisible et des énergies des lieux. Alors selon cette tradition, certaines maisons ne sont pas des simples constructions, mais des entités qui sont vivantes, habitées par une force propre. On parle parfois de conscience du lieu, une énergie autonome qui semble dotée d'une volonté subtile. Cette énergie peut se manifester de multiples façons, que ce soit par des bruits inexplicables, des accidents, des objets qui se déplacent ou encore par une atmosphère. Plutôt que de nuire pour nuire, cette conscience semble chercher à rétablir un équilibre perturbé par l'action des habitants. Une modification de l'espace, un déplacement de mobilier ou simplement l'arrivée de nouveaux occupants peuvent déclencher ces manifestations, comme si la maison réagissait pour protéger son intégrité et préserver l'harmonie de son énergie. Chaque bruit, chaque sensation étrange, chaque incident matériel devient alors un signal, une manière de rappeler que le lieu n'est pas neutre et qu'il impose ses propres lois. Alors cette tradition, certaines traditions, enfin, évoquent également la présence de genre, ce qu'on appelle de gardiens invisibles. On peut penser aux gardiens du seuil. Alors c'est des entités qui sont souvent décrites comme bienveillantes, qui sont attachées à la protection du lieu et la conservation de son énergie. Le rôle, c'est pas de nuire, mais de dissuader quiconque pourrait troubler l'équilibre du lieu. Les sensations de malaise, les incidents, les départs précipités peuvent être interprétés comme la manifestation de cette vigilance invisible. Le lieu, à travers ses gardiens ou cette énergie propre, semble exercer un droit d'asile sélectif. Seuls ceux qui respectent sa mémoire et son énergie peuvent y trouver un certain équilibre, tandis que les autres sont progressivement repoussés. Enfin, ces maisons nous rappellent que l'histoire et les événements passés influencent profondément l'énergie d'un lieu. Chaque tragédie, chaque émotion intense ou chaque transformation du bâtiment laisse comme une empreinte invisible, mais perceptible par ceux qui y vivent dans son environnement. Les humains, malgré leur volonté de maîtriser l'espace, ne sont parfois finalement que de simples visiteurs dans ces maisons. Et tenter de les habiter sans tenir compte de leur mémoire peut se révéler problématique. Respecter l'histoire et l'énergie d'un lieu semble souvent être la seule manière de coexister avec lui. Si l'on ignore ces signaux, si l'on cherche à imposer sa propre volonté, la maison impose à son tour ses règles invisibles, parfois par des accidents matériels, parfois par une pression psychique subtile mais constante. Alors ainsi que l'on croit finalement à la conscience des lieux ou à la présence de gardiens du seuil, l'ésotérisme nous invite à considérer ces maisons comme des entités vivantes, à la fois mystérieuses et exigeantes, qui enseignent une forme de respect et de prudence face à l'espace que nous occupons. Dans cette perspective, le malaise, les accidents, les départs répétés ne sont pas des simples coïncidences, mais des manifestations d'une interaction subtile entre le visible et l'invisible, entre le vivant et le lieu, qui échappe bien sûr à la logique humaine, mais qui pourtant ne peut pas être ignorée. Alors pour clore notre exploration, il est essentiel de réfléchir à ce que ces maisons nous enseignent sur notre rapport à l'espace, à l'histoire et à l'énergie qui nous entoure. C'est la manière dont nous pouvons tenter de coexister avec des lieux aussi singuliers. Alors les maisons qui refusent d'être habitées constituent en tout cas un phénomène fascinant, à la fois mystérieux et profondément humain. Les exemples que nous avons vus ensemble de Pontefract, d'Amiens ou encore de Borley ou de Winchester montrent que ces lieux ne sont en tout cas pas de simples constructions, ils interagissent avec ceux qui y tentent d'y vivre, influencent leur quotidien, leur perception et même leur état psychique. Alors d'un point de vue scientifique, les relevés électromagnétiques, les anomalies, les failles telluriques fournissent un cadre d'explication partiel. Mais ces éléments suggèrent aussi que certaines maisons exercent une influence mesurable sur les occupants, provoquant malaise, accidents répétitifs ou tensions physiques et psychiques. Même avec ces outils, une part en tout cas du mystère demeure. Les maisons continuent à intriguer et à inquiéter, précisément parce que les mesures scientifiques ne suffisent pas à rendre compte de l'ensemble des phénomènes observés. Alors, au croisement de la science et de l'ésotérisme, ces maisons nous enseignent une leçon universelle. L'espace que nous occupons n'est jamais vide. Il est porteur d'une histoire, d'une énergie et parfois d'une volonté qui dépasse notre compréhension. Alors qu'il s'agisse d'ondes électromagnétiques, de vibrations accumulées dans les murs ou de forces invisibles guidant le cours des événements, ces lieux imposent en tout cas une interaction constante entre les êtres qui s'y trouvent. Les départs répétés de leurs occupants ne sont pas de simples coïncidences, mais une manifestation du genre de dynamique subtile entre le vivant et le lieu. Une danse invisible qui ne laisse pas dominer par la volonté humaine. Enfin, ces maisons nous invitent à réfléchir à notre rapport au monde matériel et au monde immatériel. Elles posent une question essentielle, jusqu'où l'homme peut-il prétendre dominer son environnement? Et comment reconnaître la présence et l'influence des forces qui nous entourent? Observer, écouter, respecter et parfois se retirer peut être la seule manière d'approcher ces espaces sans subir leur rejet. Ces maisons, avec leurs mystères, leurs histoires, leurs énergies, deviennent alors bien plus que des bâtiments. Elles deviennent le témoin silencieux de l'histoire humaine, gardiennes d'un équilibre invisible que seule l'attention et le respect permettent d'appréhender. Alors qu'on choisisse de les aborder par la science ou par l'ésotérisme, ces maisons restent en tout cas des énigmes fascinantes. Elles rappellent que le monde qui nous entoure est bien plus complexe, vivant et sensible que notre perception quotidienne. En fin de compte, les maisons qui refusent d'être habitées nous rappellent que l'espace que nous occupons en tout cas n'est jamais neutre. Chaque pierre, chaque mur, chaque plancher de bois peut porter l'empreinte d'événements passés, d'énergie accumulée et d'une conscience invisible qui veille sur le lieu.
Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre.
Nous arrivons au terme de cette émission où le fil conducteur, quand la matière s'anime, nous a guidés à travers les phénomènes fascinants et troublants. Nous avons commencé par explorer les statues qui pleurent, ces figures silencieuses qui semblent porter des émotions ou des messages venus d'en haut. Puis nous avons entendu les voix de la Terre, ces murmures et sons mystérieux qui émanent du sol et nous rappellent que notre planète elle-même peut se faire entendre. Enfin, nous avons pénétré dans l'univers des maisons qui refusent d'être habitées. Ces lieux où l'énergie, la mémoire et parfois la conscience du lieu influencent profondément ceux qui osent y vivre. À travers ces trois explorations, en tout cas, une même leçon se dessine. La matière n'est jamais totalement inerte. Les pierres, les bâtiments et la terre portent la mémoire, les énergies et des présences. Et elles interagissent avec nous d'une présence, d'une manière subtile, mais bien réelle. Voilà ce que ces lieux et objets nous enseignent et ce que nous avons en tant qu'humains devons apprendre pour coexister avec ce monde vivant et mystérieux. Avant de nous quitter, je vous donne un avant-goût de la prochaine émission. Nous intéresserons à des thématiques tout aussi fascinantes. Tout d'abord, le Wendigo, la créature mythique des forêts nord-américaines, symbole de la faim et de la folie, mais aussi des légendes profondément ancrées dans la culture autochtone. Puis nous parlerons de la magie de Noël avec les plantes magiques de Noël, gui, houx, cannelle, écorce d'orange. Découvre un petit peu sur ce que nous racontent les traditions ésotériques de la magie de ces ingrédients. Puis, nous parlerons des fantômes de Noël. Et parce que Noël est aussi un temps où les voiles s'amincissent, nous plongerons dans l'univers fascinant des fantômes de Noël. Bien avant Dickens, ces apparitions hivernales qui peuplent les récits anciens et modernes lorsque les longues nuits ouvrent les portes de l'invisible. Un voyage fascinant entre le folklore, le mystère, la tradition et le frisson. Donc, rendez-vous le 16 décembre, 21h sur Radio G, pour une émission qui éclaire autant qu'elle trouble. D'ici là, n'oubliez pas de garder l'œil ouvert et de prendre soin de vous.
n'oubliez pas, le paranormal, l'ésotérisme ne sont pas seulement des domaines de l'imaginaire, mais des invitations à voir le monde sous un angle nouveau, à questionner nos certitudes, nos habitudes et à enrichir notre existence tout en gardant notre esprit critique. Vous l'aurez compris, c'est aussi une invitation à adopter un autre regard. Merci d'avoir été à l'écoute. À très bientôt sur Radio G pour un nouveau voyage extraordinaire au cœur de l'invisible et de l'inconnu. Alors, restez curieux, ouverts d'esprit et prenez soin de vous.